c'est l'heure du journal des idées avec vous, Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Jacques, il arrive que l'ancien monde rattrape le nouveau. La mensualisation de l'impôt qui nous attend l'année prochaine, par exemple, avec le prélèvement à la source, eh bien c'est une invention romaine.
Et même gallo-romaine, comme le rappelle Stéphane Ratti dans les pages Champs Libres du Figaro. C'est au temps de la conquête de la Gaule par Jules César qu'un dénommé Licinius fut désigné à la tête du bureau fiscal chargé du recouvrement de l'impôt en Gaule. L'ironie de l'histoire veut que ce soit un Gaulois, ancien prisonnier de César et affranchi par lui, qui fut nommé à ce poste de confiance en raison de son impitoyable dureté. L'historien cite Dion Cassius. Unissant l'avarice d'un barbare aux prétentions d'un Romain, Licinius abattit tout ce qui autrefois avait paru supérieur à lui et opprima tout ce qui dans le moment avait quelque puissance. C'est ainsi qu'il leva de fortes sommes pour satisfaire aux exigences des fonctions dont il était chargé. Il en ramassa également de fortes tant pour son compte personnel que pour les siens. Et c'est ainsi qu'il conçut donc le projet diabolique de mensualiser l'impôt des Gaulois en poussant la perfidie jusqu'à décompter 14 mois dans l'année. Décembre, à ses yeux, n'étant que le 10e mois de l'année. Piètre latiniste ou prévaricateur madré, il se basait en effet sur l'étymologie de décembre, décem signifiant 10, du fait que l'ancienne année latine, qui commençait au mois de mars, n'affichait que 10 mois au calendrier. Le barbarisme péchait en outre par ignorance de la fiscalité romaine, qui n'admit longtemps qu'un impôt sur les successions, dont l'empereur Auguste avait fixé le montant à 5% du bien hérité. Et Stéphane Ratti souligne qu'il était si impopulaire que le vertueux Trajan, par souci d'honnêteté, ce prince excellent publié, nous dit Pline, le jeune, quand il rentrait de voyage, le montant exact de ses frais de déplacement, eh bien, Trajan en avait considérablement assoupli les modalités. Memoria quasi venter est animi, la mémoire est comme le ventre de l'âme, affirmait Augustin dans les Confessions, que Licinius ne pouvait pas avoir lu, et encore lui fallait-il avoir une âme. S'il est vrai que nous voyons l'histoire avec les yeux qu'elle nous a donnés, comme disait Hegel, la vision rétrospective peut se révéler édifiante. Sur le site En attendant Nado, Claire Polian fait l'éloge de la littérature latine comme un espace de découverte et de dialogue où l'ensemble de notre rapport au livre et à la littérature est convoqué. Elle rend compte de l'ouvrage de Nicolas Gardini, Vive le latin, histoire et beauté d'une langue inutile, publié aux éditions de Fallois, de la guerre des Gaules de César. L'écrivain et traducteur italien évoque un passage sur la fabrique d'un pont militaire en notant une langue d'ingénieur qui recrée le monde par l'arithmétique et la géographie, qui organise les phrases selon des rapports exacts de cause à effet et par unité temporelle clarifiée avec précision. Et Marielle Massé a pu relire, en parallèle avec Mai 68, les métamorphoses d'Ovide comme un poème qui nous parle aussi de cette société élargie, de ce parlement élargi qui rassemblerait, sur la scène politique, humains et non humains, hommes et bêtes, fleuves, pierres, forêts. Dans les métamorphoses, on devient laurier, vache. Pluie, souche, et c'est ainsi qu'on fait entendre son désir, qu'on invente des liens, des ruses et d'autres façons de se toucher les uns les autres et de réinventer la vie dans un monde abîmé comme un printemps précaire en chacun de nous. Sur le site nonfiction.fr, à la rubrique Actuel Moyen-Âge, Tobias Bostad revient sur le différend commercial entre Bruges et les villes de la Hanse allemande pour illustrer l'efficacité relative des sanctions économiques décrétées tous azimuts par le président américain. Au milieu du XIVe siècle, la ville flamande, alors à son apogée, est le plus important marché d'Europe du Nord. Elle dispose d'un droit d'étape, c'est-à-dire que les marchands sont obligés d'y faire halte quelques jours et d'y payer des taxes avant de pouvoir poursuivre vers l'Est ou vers l'Ouest. On y trouve donc des Allemands, des Anglais, mais aussi des Français, des Espagnols, des Provençaux ou encore des Italiens. La concurrence y est féroce. Les Allemands y disposent de privilèges qu'ils estiment insuffisamment respectés. Les villes hanséatiques organisent la riposte en décrétant l'embargo et font plier Bruges, privée des blés de Prusse, au bord de la famine et ravagée par la peste. Mais l'arme est à double tranchant car l'interdiction faite aux marchands allemands de commercer en Flandre profite aux fraudeurs allemands, mais aussi aux Anglais et Hollandais. Devenus remplaçables, les hanséates eux-mêmes ne sont plus à l'abri de sanctions. comme en Angleterre où les rois monnaient de plus en plus cher, le renouvellement de leurs privilèges commerciaux à partir de la seconde moitié du XVe siècle. Et au final, ils doivent composer avec le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, qui contrôle alors l'essentiel de la Flandre et des Pays-Bas. Aujourd'hui, on le sait, ce sont les industriels américains qui sont les premières victimes de l'augmentation des taxes sur l'acier et l'aluminium. Et la politique commerciale multilatérale menée tambour battant par un président dont on peine à discerner la cohérence ne peut effacer l'impression funeste d'un retour au Moyen-Âge.